Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Le commentaire de
Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
Alors Mathieu, je sais que tu veux parler des plaintes pour le service en français là, à l'Office de la langue, mais tout d'abord, écoute, je veux rien qu'attirer ton attention dans Le Devoir aujourd'hui, une lettre ouverte signée par deux étudiants en sociologie qui nous disent... Tu as lu ça?
Qui nous disent
que la raison triomphante héritée des Lumières, c'est paternaliste et qu'il faut accorder davantage de place dans les universités à l'émotion plutôt qu'à la raison. Écoute, il faut
fouiller. J'ai lu ce texte qui est une version, pas très élaborée, un peu bas de gamme du credo, on pourrait dire, à prétention décoloniale dans les universités. Certains disent, le côté politique, on va dire woke, là, mais pour le dire de manière plus académique, c'est le credo décolonial, qui nous vient directement du politiquement correct des années 80 et plus encore des années 70, l'espèce de conversion culturelle du marxisme, la contre-culture. Je résume, derrière l'universalité, l'universalité ne serait qu'un masque, la science ne serait qu'un masque, la raison ne serait qu'un masque pour que se déploie d'une manière ou de l'autre l'idéologie blanche, le patriarcat, un monde hétéro-phallo-centré, et ainsi de suite. Donc, pour permettre aux différentes minorités qui seraient oppressées par la raison, enfin, derrière la raison par l'idéologie blanche, et ainsi de suite, il serait nécessaire d'institutionnaliser des savoirs concurrents, des savoirs puisant dans l'expérience des groupes minoritaires, et ça permettrait à terme de décoloniser les mathématiques, de décoloniser la physique, de décoloniser la chimie, de décoloniser la biologie, de décoloniser la littérature. En dernière instance, ça réduit le savoir à un pur rapport de pouvoir. En dernière instance, ça réduit le savoir à une pure forme d'idéologie. Donc c'est plutôt banal en quelque sorte comme lettre, on y est habitué, mais il est fascinant de voir que des gens récitent ça à la manière des prières d'antan. Hein.
Mais comme tu le dis souvent ici sur nos ondes, hein, bientôt on va nous dire que 2 + 2 = 4, c'est colonialiste, que c'est la supériorité blanche et que il faut apprendre à ce que dans certaines cultures 2 + 2 = 5.
Ah ouais, mais tu crois que tu blagues, mais pas dans le sens. Je vais te donner un exemple. Alors j'ai pas le document devant moi, mais je pourrais te le retrouver facilement. Alors, au nom, par exemple, de la lutte contre la suprématie blanche, on va expliquer qu'il faut changer l'enseignement des mathématiques. Ça, je sais pas exactement. Il faudrait que je retrouve le document, mais je pourrais en témoigner sans souci. On nous explique qu'est-ce que c'est la suprématie blanche en matière d'enseignement des mathématiques, parce que spontanément, ça nous vient pas à l'esprit, mathématiques et suprématie blanche. Et puis on va nous dire que c'est une approche fondée sur la recherche d'une solution exacte, une solution de problème. Alors qu'une rupture avec la suprématie blanche, ce serait valoriser la démarche, valoriser l'enquête, valoriser la recherche au-delà du souci de la réponse exacte. Et là, on lit ça, puis il y a bien d'autres choses. Mais là, on lit ça, puis on se dit, mais est-ce qu'ils se rendent compte, ceux qui tiennent de tels discours, de la condescendance effrayante qu'ils ont à l'endroit des non-blancs, entre guillemets? Hein? Comme si les non-blancs, eux, n'avaient pas le souci de la réponse exacte. Comme si les non-blancs étaient étrangers à la raison. Comme si les non-blancs étaient... Non, mais quelle sottise!
Non, mais c'est condescendant. Et moi, j'ai toujours cru, on m'a toujours appris que le nombre zéro, par exemple, c'était les musulmans, et c'était les arabes qui étaient arrivés avec le nombre zéro.
Mais on est dans cette idée qu'il n'y a pas de connaissance possible. Alors là, c'est s'il faut jouer à tout prix à faire des nuances, évidemment que tout fait en sciences sociales est lié à une représentation. C'est-à-dire qu'on est bien prêt à concéder que personne n'a accès immédiatement à la vérité du monde. Il y a toujours des symboles, il y a toujours un biais culturel. OK. Mais là, on est quand même, là, on tombe même dans le domaine des sciences dites dures, donc les mathématiques, donc la physique, tout ça. Même là, on veut voir la trace de l'esprit colonial. Donc là, c'est que ça devient, c'est une névrose en quelque sorte, soyons honnêtes. Puis en plus, soyons méchants aussi, c'est que ça permet à des gens qui ont souvent une culture, disons-le, approximative au plan académique, d'avoir d'un coup l'impression de tout comprendre, de tout posséder, de tout connaître, de pouvoir tout abattre, parce qu'ils ont compris en quelques formules de quelque manière fonctionne le logiciel de la déconstruction. Et encore une fois, je le redis, il y a une condescendance. On nous dit globalement que le souci de la rationalité de la science, ce serait blanc. Mais quel sottise. Les Noirs, les Arabes, on va faire la longue liste s'il le faut, les Latinos, les Japonais, les Chinois, ce sont tout autant capables, désireux et volontaires de fonctionner selon dans une recherche de la raison, une recherche de la vérité. C'est quoi cette espèce d'idée que ce serait une forme de l'expression du privilège blanc, encore une fois, que d'être dans la quête de la vérité? Non, mais c'est une blague funeste. Mais le fait est que c'est quand même l'orthodoxie académique. Et là, on signe des pétitions. Là-dessus, en vous avez signé des pétitions, c'est toujours agréable. Alors, ça permet de participer à une meute lyncheuse du moment. Alors, c'est absolument insupportable, mais c'est ce qui passe aujourd'hui pour le sens commun dans l'université. Je me permettrai même un commentaire de plus là-dessus. Le savoir partagé, hein, le sens commun académique universitaire, il y a quelques décennies déjà, puis Lucien Bouchard est un peu l'héritier de ça, c'était les humanités, hein, les humanités grecques, les humanités latines, c'était la culture issue de l'Antiquité gréco-latine qui avait été ressaisie avec la Renaissance, repris ensuite, donc toute une démarche. Donc c'était ça la culture commune qui faisait qu'un avocat, un chimiste, un médecin avait un langage commun pour parler des choses. Aujourd'hui, ce sont les loufoqueries décoloniales, intersectionnelles, qui sont le nouveau sens commun académique. Donc, autrement dit, de ce point de vue, c'est pas un détail, c'est en train de s'imposer même dans les facultés qui font des recherches les plus pointues. C'est le sens commun inversé de notre époque qui nous a permis devant cela de rire, mais aussi de contre-attaquer.
C'est complètement fou. On va revenir sur le plancher des vaches ici. Le nombre de plaintes a explosé dans les 5 dernières années à l'Office québécois de la langue française. Et ce qui est intéressant, c'est que ça provient pas seulement de la région de Montréal. On parle ici de plaintes qui proviennent de la Montérégie, de l'Outaouais, de Lanaudière. Donc, ça déborde.
Oui, et moi, devant cela, alors mon premier réflexe devant ça, c'est de dire, puis je le pense pour vrai, que la réponse doit être politique. Alors moi, j'attends désespérément la loi du ministre Jolin Barrette qui marquera une réponse politique ferme par rapport à ça. Puis moi, en plus, en ces matières, je suis assez ambitieux. Hein. C'est-à-dire une réforme de la loi 101, une baisse de l'immigration, il y a toute une série de mesures, renforcement de l'enseignement de l'histoire. Pour moi, c'est un bouquet de mesures qui peut vraiment permettre de renverser la tendance. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui que j'ai aussi envie de faire l'éloge de l'intransigeance linguistique. C'est-à-dire les Québécois sont trop souvent moutonnier, bel an, accommodant, bon ententiste, jusqu'à servir de tapis pour dans l'histoire de vouloir être poli. Et là, on aura envie de dire à chacun d'entre eux de se tenir, tout simplement, de ne pas se capituler, de ne pas voir de la courtoisie dans l'auto-effacement. Ce n'est pas être courtois que de se considérer comme optionnel chez soi. C'est un rapport de pouvoir qui se joue autour de la langue. C'est un vrai rapport de pouvoir qui se joue dans la langue, dans la grande région de Montréal, surtout. C'est pas la courtoisie du maître d'hôtel qui accueille au Saguenay, qu'en sais-je, qui accueille en Mauricie un touriste américain dans sa langue. C'est pas de ça dont on parle. On parle en ce moment d'un effacement du français à Montréal. On parle d'une régression. Donc, si chaque Québécois en lui-même ne décide pas de se redresser puis de se croire lui-même aussi porteur de cette bataille et de croire que l'État est le seul à pouvoir faire la chose. Moi, je crois que l'État a un rôle fondamental. Mais si chacun démissionne, eh bien, en dernière instance, on est appelé à mourir parce que cette culture, nous ne la porterons plus en nous et nous ne serons plus prêts à nous battre au quotidien. C'est pas grand-chose. On demande à personne de se transformer en révolutionnaire comme Che Guevara. Tout ce qu'on dit, c'est considérez pas que votre langue est optionnelle dans les interactions sociales. Ce petit éloge de l'intransigeance linguistique est là pour nous rappeler qu'on a chacun quand même une défense, un rôle dans la défense de notre langue.
Mais Mathieu, j'ai 3 enfants, 25 ans, 21 ans, 12 ans, et lorsque j'allais naguère, quand c'était permis au restaurant avec eux et que je n'étais pas servi dans ma langue et que je demandais à avoir des menus en français parce qu'on me donnait des menus en anglais, mes enfants, arrête papa, arrête, fais pas un scandale, ils avaient honte, ils rougissaient, ils roulaient des yeux, tout ça, tu sais... C'est pas dans leur culture de faire ça.
Ah ben t'as absolument raison, je l'ai constaté souvent, mais c'est à ce moment qu'il faut être, je dirais, juste un peu capable d'effaroucher même ses amis. Non, moi je suis évidemment le type insupportable qui dans un restaurant quand on me dit hi sir, pardon, parce que moi c'est très rapide, c'est pardon, 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 et en ces matières, puisqu'il y a quand même une capacité de décoder. Hein. Il y a une manière de dire pardon, il y a une manière de dire excusez-moi qui est compris comme un signe politique, d'autant que c'en est un. Et là, ça crée un petit malaise. Mais en général, à tout le moins c'est mon expérience, ce malaise, un moment donné, on comprend que ah finalement vous parliez français très bien, vous le parlez très bien en plus, cher ami, formidable, vous n'auriez jamais dû hésiter à me parler français. Et là, d'un coup, ceux qui étaient gênés et qui tremblaient et qui mouillaient leurs pantalons à côté de nous, sont finalement pas malheureux que quelqu'un, l'un d'entre eux, se soit chargé du mauvais rôle du défenseur du français. Et puis qu'on vienne pas nous faire croire en pensant que c'est exceptionnel. Dire, comme tout le monde en pandémie, on peut pas aller au restaurant, c'est normal, c'est la vie, mais on commande quand même pour soutenir les restaurateurs locaux parce que quelquefois on a envie de faire néanmoins la fête à la maison, soyons sérieux. Je veux dire, 9 fois sur 10, le livreur arrive, il n'est pas capable de me dire un mot français.
Écoute, et chaque fois la maison, Sophie, est furieuse, puis elle a dit au livreur, comment ça se fait? C'est que là, on peut dire, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ce job-là de livreur, c'est souvent des immigrants qui viennent d'arriver ici. Bon, c'est des jobs que les Québécois de souche ne veulent pas faire. Ouais. Je peux comprendre, mais Mathieu, ils peuvent dire bonjour, merci. Ils peuvent apprendre à dire bonjour, merci. Déjà, là, moi, je ne demande pas qu'ils me récitent la tirade du nez de Cyrano Bergerac. Je veux qu'ils me disent bonjour et merci.
Mais tu me permettras d'utiliser cette expression scientifique par rapport à l'argument qu'ils viennent d'arriver et ils parlent pas français, c'est compliqué. J'ai des réponses qui s'appellent « fuck it, calice », pardonne-moi. et c'est la chose suivante, c'est-à-dire, là, vous arrivez ici, vous êtes en interaction tous les jours avec des gens qui commandent. Donc, la première règle, surtout si on est dans les services, c'est d'être capable d'interagir en français. S'ils ne sont pas capables de dire bonjour, merci, au revoir, s'ils ne sont pas capables de faire ça, il y a deux possibilités. La première, c'est que les Québécois francophones sont à ce point moutons, justement, qu'eux-mêmes s'inclinent devant qui disent « Oh, no French, no French, no French hein? ». Mais ça va. Ou il y a tellement de régression du nombre de francophones à Montréal que le besoin de parler français n'est plus là et puis qu'on peut même se passer de bonjour, au revoir, merci. Donc, il y a ces deux possibilités-là. Et moi, quelquefois, moi qui n'aime pas parler anglais au Québec pour le dire ici, il m'arrive quelquefois, poliment, de gentiment rappeler aux gens « You're in Québec, sir ». Et là, j'explique pourquoi c'est en français. C'est une marque de respect élémentaire. Et je ne doute pas que la prochaine fois, vous nous parlerez français. Hein? Je l'explique poliment quand même, en me disant que s'ils rencontrent 5 ou 6 gus comme moi qui leur disent, il se peut que ça ait un effet. Mais ça, je pense qu'il faut, là-dessus, ce que j'appelle l'intransigeance.
Oui.
Il
ne
faut pas se dire « Ah, mais le pauvre, il vient d'arriver. » Non, mais s'il vient d'arriver, s'il venait d'arriver en Italie, il parlerait italien. S'il venait d'arriver en Suède, il parlerait en suédois. Mais il arrive au Québec, il parle français.
Non, mais l'affaire, c'est qu'il arrive pas au Québec.
Il arrive au Québec, il parle anglais.
Il arrive pas au Québec, il arrive au Canada. C'est ça le maudit problème.
Le Québécois est chargé de porter son drapeau minimalement, ne serait-ce que le temps d'une interaction pour dire bonjour, merci, au revoir. C'est très agréable de vous entendre parler français. On est quand même en train de considérer que c'est une victoire collective qu'on réussit à se faire dire bonjour dans notre propre pays.
Ben écoute, ça va être réglé là. Il y a pas 75 solutions. Quand on va devenir un pays, puis les gens vont venir dans un pays qui va s'appeler le Québec, qui va être un pays francophone, le message va être clair. Là, on envoie deux messages.
Et ah, c'est ben, ça. Tu parles convaincu à la matière. je dis qu'un seul rêve, c'est de voter oui le plus tôt possible.
J'espère qu'on va pouvoir le faire. Merci beaucoup, Mathieu.
Au grand plaisir. Bye bye.